France Musique.
Musique et moi.
Sabine Vespizer.
Elsa Boublil.
La forme produit du sens.
Hubert Nissen.
Va minha tristeza, diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim. Não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você.
C'est sur cet air et cette chanson éminemment joyeux, No More Blues, Chega de Saudade, d'Antonio Carlos Jobim, que vous sifflez, semble-t-il, sous la douche, Sabine Vespizer.
Que je tente de siffler, très faux.
Et alors, c'est sur cette chanson que nous vous accueillons. Bonjour, Sabine
Vespizer.
Bonjour, Vespizer.
Les avez oubliés.
Et
là.
Vous tentez donc de chanter, de siffler, vous dites très faux, mais c'est parce que c'est un
parce
accès
que
de
très
modestie.
Faux. Non, c'est pas du tout un accès de modestie. J'ai un souvenir cuisant, un de mes premiers souvenirs d'école, d'une directrice d'école maternelle qui a convoqué ma mère pour lui demander qu'elle parvienne à me convaincre d'arrêter de chanter dans la chorale, tellement je chantais faux, et je chante toujours aussi faux.
Est-ce que c'est un complexe ou une réalité? Parce que maintenant, peut-être
c'est un faux.
Bon, d'accord. Cette chanson, néanmoins, est celle que vous sifflotez mal sous la douche. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? On dirait qu'il y a quelque chose tout de suite de très entraînant, comme si la journée allait bien commencer.
La vie, la joie, la mélancolie, le Brésil, qui est un pays qui m'a toujours absolument fascinée et où je me rends dès que je peux, où j'ai des amis très chers et qui est ce pays de l'énergie absolue, de l'énergie de la nature. Hein. Vous êtes au Brésil, vous avez le sentiment, vous levant le matin, qu'un palmier a poussé devant votre porte. Enfin, il y a quelque chose de tellement énergique, moi, qui me transporte de joie.
Et ça nous renvoie, d'une certaine manière, à la phrase d'Hubert Nissen, la forme produit du sens.
Oui.
C'est vrai, c'est apparemment une phrase que vous utilisez beaucoup dans votre vie quotidienne.
Que j'utilise beaucoup dans ma vie professionnelle, ouais. Parce que, pour moi, un texte, c'est une forme avant tout. Évidemment, c'est pas une histoire, c'est une forme, c'est la langue, c'est comment la langue, comment la forme produit du sens. Ce qui est vrai de manière très générale, enfin, la manière dont vous vous comportez, dont vous êtes habillé, enfin, l'impression que vous donnez, c'est la première impression visuelle.
Pour ceux qui ne le sauraient pas, donc, Sabine Vespizer, vous êtes éditrice et fondatrice en 2002 avec Jacques Lénart des éditions Sabine Vespizer. Vous publiez une dizaine d'ouvrages par an.
C'est ça.
Dans une structure que l'on peut encore qualifier de petite, sans que ce soit péjoratif. C'est même un souhait de votre part, il me semble.
C'est un souhait absolu. J'ai toujours eu envie de renouer avec ce bel artisanat de l'édition tout en essayant de jouer dans la cour des grands, pour que mes auteurs trouvent chez moi très exactement les mêmes prestations, avantages, possibilités que dans un groupe, ce que permet la loi sur le prix unique du livre, qui fait qu'un livre de ma première rentrée littéraire, un premier roman, Diane Meurt, La vie de Mardochée de Löwenfels, écrite par lui-même, et sur les tables de tous les libraires, de toutes les enseignes et de tous les sites au même prix que partout ailleurs.
Loi Jack Lang,
loi Lang
qui absolument. Vous a permis de garder cette forme-là. On va pouvoir en parler pendant cette émission. Mentionnons néanmoins que Louis-Philippe d'Alembert a été sélectionné pour le prix Goncourt, donc ça veut bien dire qu'une petite maison peut jouer dans la cour des grands.
Mais c'est une excellente nouvelle qui me comble de joie.
On va en parler. On vous qualifie souvent de ci-de-là de chef d'orchestre de votre maison. Ça nous convient très bien à nous pour aujourd'hui vous accueillir dans Musique et Moi. Et vous le dites vous-même, hein, vous aimez le vocabulaire musical pour parler de littérature. On va avoir l'occasion d'en parler au cours de cette émission puisque vous êtes notre invité jusqu'à 12h30 sur France Musique et que vos auteurs également s'intéresse souvent à la musique, ça aussi c'est un fait.
Oui,
et pour au moins trois d'entre eux, pour le moment, place au premier émoi musical, sans doute relatif à l'enfance d'ailleurs, la valse la plus célèbre du monde, le Beau Danube bleu. Le Boden bleu de Johann Strauss fils par l'Orchestre Philharmonique de Vienne sous la direction de Nikolaus Harnoncourt. Pour démarrer cette émission avec vous, Sabine Vespizer, alors c'est la valse la plus emblématique, symbole d'une époque où cette danse, la valse était reine à Vienne. C'est un souvenir d'enfance, c'est un premier émoi musical.
C'est en tout cas un souvenir de bain musical d'enfance, parce que j'ai grandi à la frontière allemande, j'ai grandi en Alsace. Et c'est un souvenir paradoxal, parce que quand j'étais enfant dans les années 60, mes parents et moi-même du reste, hein, j'étais tout à fait volontaire, n'avions qu'un souhait, nous démarquer de la culture germanique, la guerre n'était pas loin. Eux-mêmes avaient souffert du bilinguisme, ayant été scolarisés à l'école allemande, à l'école française. Et donc tout ce qui était allemand était un peu suspect. Et en plus, je trouvais ça un peu ridicule. Sauf que, à le réécouter, des années plus tard, je me suis rendu compte quand même que j'appartenais vraiment à cette culture-là.
Dans quel sens ?
Et que cette rondeur, cet talent de cette musique, et puis au sens de cette culture germanique, enfin, et au sens où, finalement, maintenant, les concerts du Nouvel An, du Musikverein, je les écoute tous les ans à la radio, religieusement, en chantant à tue-tête dans la maison pour le grand malheur de ceux qui y sont, avec le beau Danube bleu, ce qui montre qu'à un moment donné, je suis certainement partie très loin de mes origines, mais en effet, je ne peux que les assumer.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Et c'est vrai qu'à la lecture de votre programme musical, en tout cas des titres que vous avez proposés relatifs à votre vie, la question se pose très vite. On se dit, tiens, c'est marrant, il y a beaucoup de musiques qui sont plutôt germaniques. On va pouvoir en parler. Sabine Vespizer, cette enfance donc en Alsace, vous étiez seule avec des parents qui aimaient la musique, justement qui écoutaient le concert du Nouvel An, pas
oui,
du tout.
Oui, qui écoutaient le concert du Nouvel An. Et voilà, c'était une enfance comme plein d'enfances qui n'a pour moi d'intérêt que les livres que j'y ai découverts. C'est-à-dire que c'est une enfance banale de petite fille unique, heureuse, choyée, qu'on a envoyée dans de bonnes écoles, qui adorait aller à l'école, hein, qui était première de la classe et qui lisait tout le temps. Parce que finalement, la vraie vie, elle était ailleurs que dans cette Alsace très, très calme, très paisible, avec des géraniums aux fenêtres et dont j'ai eu assez vite envie de partir.
C'est vrai, ouais. Vers quel âge ?
Oh ben, après mes études, enfin, pas très tôt, mais j'ai toujours su que je ne grandirais pas, je ne vivrais pas là, je n'y ferais pas ma vie.
Mais dans l'enfance, donc la musique était-elle présente ?
Elle était raisonnablement présente, mais quand même assez peu. On a essayé de me faire apprendre le piano, mais comme je n'ai aucune oreille musicale, j'étais très 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 mauvaise. Donc Jules Serret, mes deux professeurs successifs de piano, qui essayaient de me faire jouer un concerto brandebourgeois, c'était catastrophique. Et puis très vite, on m'a laissé lire tranquillement, en fait.
Ah, c'est de là le concerto brandebourgeois. Thank you. Ricardo Chailly dirige l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig dans cet Allegro du concerto brandebourgeois numéro 3 en sol majeur de Jean-Sébastien Bach, qui est une œuvre que vous avez rencontrée très jeune. Vous le disiez tout à l'heure, Sabine Vespizière, vous avez essayé de jouer un des concertos brandebourgeois au piano.
Oui, malheureusement, je l'ai massacré assez vite, mais cette musique continue toutefois de me fasciner par son côté rassurant. Dans le rythme, dans la forme, dans la manière dont elle vous embarque. C'est une musique qui est... il peut rien vous arriver quand vous écoutez ça.
Oui, vous l'écoutez beaucoup
J'écoute beaucoup Bach et j'écoute beaucoup Bach quand je lis. Ce qui est possible, parce que précisément ce rythme, cette structure, qui est ce que je cherche aussi dans un texte, évidemment, et qui me porte et m'accompagne.
Ouais. Et vous permet de plonger aussi dans le rythme
oui,
de l'auteur.
Absolument. Alors pas tous les auteurs, mais les grands textes symphoniques, par exemple. Je parlais de Diane Meur tout à l'heure, où vous évoquiez Louis-Philippe d'Alembert, qui sont des proses épiques, narratives, des formes amples. Ça commode très bien de l'écoute de Bach.
Victor Hugo, cet été, par exemple, que vous avez lu.
Absolument, si je ne l'avais pas lu dehors, au bord de l'eau, j'aurais pu écouter Bach en lisant Les Misérables. Et en même temps, je ne sais pas, parce qu'il y a dans la langue de Hugo et dans ce flux narratif, il y a une telle énergie qu'elle se suffit à elle-même. Enfin, on est embarqué là par tous les sens et par tous les pores de la peau.
Et toutes les musiques également. Ouais. Vous le disiez, Sabine Vespizière, vous avez commencé à lire très jeune. Est-ce que vous aviez idée, à ce moment-là, donc la musique était là, mais c'est la littérature qui l'emportait, est-ce que vous aviez idée à ce moment-là, dans votre prime adolescence, de ce que vous aviez envie de faire, à part lire ?
Pas du tout, j'adorais lire et j'adorais dans la lecture ce que j'aime dans la musique et dans la musique de Bach, c'est-à-dire être transportée dans un autre monde, dans une réalité parallèle. C'est-à-dire que la vie est ennuyeuse sans ces mondes de création qui font qu'à un moment donné, ma propre émotion est totalement vive et je me mets à vivre une autre vie que la mienne.
Ouais.
Voilà, tout simplement. Et c'est ça qui me plaisait dans la lecture et qui me plaît dans la musique, mais superlativement évidemment dans la lecture puisque j'en ai fait mon métier, mais je n'avais pas du tout, comme aujourd'hui, le fantasme de l'édition, par exemple. J'ai poussé le plus loin possible des études de lettres en n'ayant aucune envie d'enseigner, parce que je n'ai aucune patience et que j'aime transmettre, mais apprendre des déclinaisons latines ou la grammaire grecque à des élèves de lycée a été assez vite au-dessus de mes forces. D'ailleurs, j'ai fait ça 3 ans et je suis partie. Mais je n'avais pas d'idée comme... des jeunes gens aujourd'hui qui arrivent en disant « je me crucifierai sur l'autel de l'édition, je vais absolument devenir éditeur, j'ai fait déjà 10 ans d'études ». Moi, c'était pas du tout mon cas. Je suis arrivée chez Actes Sud, j'ai demandé un stage, Hubert Nissen m'a pris sous son aile et ça, c'est arrivé.
La mazurka en sol mineur opus 24 numéro 1 de Chopin, interprété par Sviatoslav Richter. Alors Richter disait au sujet de Chopin, Chopin est indéfinissable, c'est à la fois la spontanéité et la perfection la plus totale. Dans la musique de Chopin, tout est raffiné à l'extrême et pourtant, tout vient directement du cœur. Alors évidemment, vous, c'était par rapport à Richter, mais Richter était l'un des interprètes les plus forts du répertoire de Chopin. C'était Chopin et Debussy pour lui. Vous, c'est l'interprète Richter que vous aimez.
C'est l'interprète Richter et c'est la manière dont la simplicité absolue de la phrase de Chopin ressort sous ses doigts, sous sa frappe. Et je trouve ça, voilà, c'est quelque chose qui me donne une exigence de forme quand je lis de manière professionnelle. Quand je lis un manuscrit, et quand je sais que c'est un auteur d'une veine plus intime, hein, comme Michel Lèbre, comme Léonore de Récondo ou comme Jean Materne, très souvent, j'écoute Chopin joué par Richter. Parce que j'ai l'impression qu'il y a l'exigence absolue de cette forme fluide, de cette simplicité que je recherche aussi dans un texte. Et ça, j'ai l'impression d'avoir des garde-fous en lisant.
Mais expliquez-nous, Sabine Vespizer, parce que c'est intéressant. On a l'impression, en vous écoutant, que la musique serait comme une surimpression, on pourrait dire, qui donne une structure à ce que vous espérez ou attendez d'un texte. Est-ce que c'est ça?
C'est un peu ça. C'est un peu, peut-être c'est un peu moins affirmé que ça, mais c'est intéressant justement d'en parler et de verbaliser ça, parce que je me rends compte en effet que mon envie, c'est d'avoir une belle exigence, évidemment, pour les textes que je publie, et que en effet, cet accompagnement-là m'y aide, c'est vrai.
Et là, par exemple, cette mazurka qui est tout en, on dirait presque une petite chanson, comme ça, le silence qu'il y a dans...
Oui.
Entre les notes, j'imagine que c'est dans la littérature, c'est important.
C'est extrêmement important. C'est-à-dire que ce qui est extrêmement important pour moi en tant que lectrice et a fortiori en tant qu'éditrice, c'est que l'auteur ait de la place dans le texte. C'est-à-dire que pour moi, un texte tellement verrouillé où l'auteur explique tout, explicite tout, ça n'a pas de sens. Enfin, dire le texte pour moi, c'est un espace propice au déploiement de l'imaginaire du lecteur. Et c'est un lieu où le lecteur va trouver sa place. Si vous lisez le Girl de Edna O'Brien que je publie en cette rentrée, vous avez une leçon absolue d'ellipse dans la langue, de concision. Et la dramaturgie vient de cette concision. Quand Edna O'Brien se met dans la peau, qui est une Irlandaise de 88 ans, se met dans la peau d'une jeune fille de 14 ans enlevée par Boko Haram, elle n'a pas expliqué, elle vit. Et ce qu'elle cherche, et elle le dit du reste en parlant de ce texte et en parlant de sa littérature, elle ne cherche pas à se substituer à un journaliste ni à un commentateur, mais elle cherche l'émotion de la violence produite sur cette très jeune femme, violence qu'elle-même a connue dans d'autres, évidemment sur un registre beaucoup moins tragique, mais dans sa trentaine quand elle a été interdite de publication et bannie de son propre pays.
C'est intéressant de vous entendre parler de l'écriture, Sabine Vespizer. Quand on repense à ce que vous disiez tout à l'heure, jamais vous n'aviez pensé être un jour éditrice. En tout cas, c'était pas quelque chose que vous projetiez. Quand vous avez commencé avec Hubert Nissen, vous êtes arrivée en stage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez commencé et vous avez appris le métier avec lui, c'est ça?
Bon, j'ai appris le métier, c'est-à-dire très modestement. Comme j'étais latiniste, il m'a collé sur une révision de traduction de Vézal, ce qui était assez ennuyeux, il faut bien le dire. Et petit à petit, voilà, je me suis intéressée à la vie de la maison, aux auteurs, à cette formidable aventure qu'a été Actes Sud dans ses débuts, où il y avait un capitaine et qui insufflait son énergie pour faire avancer le bateau.
En la personne donc d'Hubert Nissen.
Absolument.
Gérard Lenne, avec Il Seminario Musicale, interprète Infirmata Vulnerata d'Alessandro Scarlatti, le père donc de Domenico. Je vous ai choisi cette œuvre pour vous, Sabine Vespizer, parce que en fouillant un peu, j'ai découvert que Hubert Nissen avait été invité sur France Musique il y a quelques années et que lui-même avait dû faire sa playlist d'œuvres qui comptaient, et parmi elles, celle-ci. Alors je vous cite quelques lignes que j'ai pu retrouver. Un motet pour contralto d'Alessandro Scarlatti, le père du fameux Domenico, avec Gérard Lenne et Il Seminario Musicale. Il traduit ce qui se dit. Sans force, blessée, elle succombe au pur amour et consumée d'une ardeur dévorante, elle languit, l'âme bienheureuse. Il poursuit, j'en venais ainsi à postuler que la musique était peut-être moins titulaire ou créatrice d'idées, qu'elle n'était source d'associations incontrôlables. Oui, me disais-je, la musique est créatrice d'idéations, elle est cause de la formation et de la succession des idées, elle offre l'espace nécessaire à la pensée et elle stimule les associations.
C'est tellement Hubert, j'ai l'impression d'entendre sa voix. Et ce qu'il dit là, moi je l'appliquerais à la littérature.
Évidemment. Voilà pourquoi je l'avais choisi pour vous.
C'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que là on parle du processus créatif, on parle de ces associations et de ce qui échappe au créateur lui-même hein, quand il jette sur le papier son texte ou sur sa partition, ses notes, et c'est ça qui est absolument fascinant. Ce qui m'intéresse dans cette musique si belle de Scarlatti, c'est que on entend la vibration, la faille aussi, le doute, ce qu'on n'attend pas en fait. Ce qui me bouleverse moi dans une œuvre, c'est toujours ce que je n'attends pas et l'endroit précis où l'écrivain ou le compositeur va parvenir à m'emmener de manière surprenante. Il y a quelque chose de qui fait que mon métier pour moi est un exercice d'admiration. C'est-à-dire, je suis toujours toujours stupéfaite de voir ce qui peut advenir d'un projet littéraire.
Est-ce que c'est ce que vous auriez appris auprès d'Hubert Nissen? Est-ce que c'est cette liberté-là, c'est cette faille-là, l'écoute de la faille qu'il vous a apprise? Est-ce que c'est grâce à ça que vous vous êtes rencontrés aussi, peut-être?
Certainement que les affinités se créent aussi sur une vision commune. Il m'a certainement appris à être libre, oui, et à me faire confiance, et à faire confiance dans mes goûts et dans mes choix. C'était une chose très inédite et très importante pour de la part d'un chef d'entreprise qui nous laissait à nous, les jeunes éditrices, la bride sur le cou en disant « Tu es vraiment convaincue ? Eh ben, vas-y et défends-le ton texte. » Ce qui est une très belle leçon. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que de publier un texte, c'est d'être capable de transmettre un enthousiasme. Moi, quand je décide de faire entrer un nouvel auteur dans la maison, ou quand je publie un nouveau livre d'un des écrivains que j'accompagne au long cours, je suis obligée d'être convaincue à 300%. Parce qu'après, c'est à moi de faire en sorte que cet enthousiasme se diffuse.
L'éditrice Sabine Vespizer est l'invitée de Musique et moi jusqu'à 12h30 sur France Musique.
Bei mir und schließe.
Gérald Moore et Dietrich Fischer-Dieskau interprètent Du bist die Ruhe de Schubert, qui correspond, Sabine Vespizer, je crois, à un moment précis de votre vie. Ce qui est étonnant quand on écoute les premières notes et même jusqu'au bout ce lead, on a l'impression d'être complètement dans une forme d'actualité musicale, de simplicité, d'épure, on en parlait tout à l'heure.
D'épure, absolument, et pour moi c'est une musique de consolation qui me ramène en effet à un hommage que j'avais organisé à l'Institut culturel irlandais, à Nuala O'Fallon, qui est une auteure irlandaise, donc dont j'ai publié l'intégralité de l'œuvre et qui est morte en 2008, en me laissant la responsabilité de faire vivre son œuvre de par le monde, ce qui était pour moi extrêmement important parce que la maison était jeune et en me demandant ça, sachant qu'elle était déjà très malade, elle me légitimait totalement comme éditrice, c'est-à-dire qu'elle me disait j'ai été publié dans le monde entier, c'est toi qui vas t'occuper de mes livres. C'était lié aussi à la spécificité du marché français, au fait que la loi sur le prix unique du livre que nous avons évoqué nous permet de travailler sur le long terme et d'essayer d'installer l'œuvre d'un écrivain dans le temps. Et ça, voilà, qui a connu la violence du marché anglo-saxon où quand on a reçu une grosse avance pour un livre obtenu par un agent avide et que le livre ne se vend pas derrière, on est tout simplement jeté hors de la maison d'édition. Et au moment de sa mort, là, le seul endroit où elle savait que le livre qu'elle venait d'achever qui n'était allait paraître, c'était chez moi. C'était dans cette maison-là, alors même que les anglo-saxons, comme elle n'était plus bankable à ce moment-là, l'avaient refusé.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Avec l'éditrice Sabine Vespizer. Alors, est-ce que ça a été difficile pour vous, Sabine Vespizer, de monter votre maison d'édition? C'était donc en 2002 qu'elle a commencé.
Écoutez, je dois avouer que je n'ai jamais eu un sentiment de difficulté.
C'est venu naturellement,
oui, presque, on peut dire ça. C'est-à-dire que j'avais quand même passé une petite quinzaine d'années aux éditions Actes Sud où j'avais appris le métier et comme tous les salariés dans une maison, à un moment donné, j'ai dit j'ai envie de créer ma maison. Actes Sud grossissait beaucoup et j'avais envie de renouer avec ce que j'avais connu au début, enfin pas au début, quand je suis arrivée chez Actes Sud en 88, c'est-à-dire une petite équipe soudée autour d'un éditeur qui est également le publisher. Les anglo-saxons sont plus explicites que nous. L'éditeur, c'est ce que je faisais chez Actes Sud. J'étais éditrice salariée dans une maison et je ne m'occupais entre guillemets que du texte et des auteurs. Publisher, c'est un chef de maison. J'ai eu envie de devenir chef de maison pour pouvoir mieux m'occuper de mes auteurs. Et à ce jour, 18 ans plus tard, je ne le regrette pas parce que j'ai le sentiment de faire un peu mieux chaque année mon métier en travaillant de manière de plus en plus précise et en ayant précisément la connaissance de la chaîne du livre et donc de l'interdépendance dans laquelle nous sommes avec libraires, journalistes, bibliothécaires et évidemment lecteurs, c'est-à-dire tous ces acteurs-là avec lesquels il nous est nécessaire, à nous professionnels du livre, de créer une chaîne, oui, de conviction ou d'enthousiasme pour faire notre métier qui est de faire passer un texte à un lecteur.
L'ouverture d'Attis de Jean-Baptiste Lully, interprétée par les Arts Florissants sous direction de William Christie. Pour évoquer, on parlait de votre maison d'édition que vous avez montée, Sabine Vespizère, et bien Vincent Borel, lui, s'est attaqué à l'histoire, à la biographie de Jean-Baptiste Lully. Il a appelé son roman Baptiste.
Il a appelé son roman Baptiste, qui dit quelque chose déjà, qui connote quelque chose de ce projet, qui est d'écrire l'histoire à hauteur d'homme et d'écrire une histoire qui certes se passe au XVIIe siècle et qui est celle d'un grand musicien à la cour de Louis XIV, mais qui est aussi l'histoire d'un microcosme de pouvoir. Qui est précisément cette cour. Donc les brigues, les intrigues, et tout ça, il le fait admirablement, avec également un amour pour cette musique baroque que j'ai toujours beaucoup écoutée et qui évidemment a fait que son projet autour de Lully m'a immédiatement portée. Et voilà, je suis heureuse d'avoir entendu cette interprétation de William Christie, que j'ai eu la chance d'entendre en concert à de nombreux reprises, souvent d'ailleurs au concert d'Actes Sud, et qui a précisément cette liberté baroque, cette énergie encore, mais surtout ce que Vincent met en avant dans ce livre Baptiste, c'est la liberté, c'est l'absolue liberté et l'absolue désir de plaire, mais le désir dans le sens le plus plein du terme, c'est-à-dire que la création, c'est le désir.
Et Vincent Borel, qui visiblement aime s'attaquer aux histoires de compositeurs qui ont accompagné finalement l'histoire de la musique aussi. Ça, c'est...
Oui, c'est quelqu'un. Alors Vincent est quelqu'un qui a beaucoup écouté de musique quand il était enfant avec son grand-père républicain espagnol, qui a beaucoup été au concert et qui très vite en a fait œuvre. C'est-à-dire qu'en effet, il s'empare d'un musicien, il a écrit un très beau Wagner, enfin qui s'appelle Richard W. Il a écrit La Vigne écarlate parlant de Bruckner. Et pour des compositeurs qui, moi, ne me transportent absolument pas, ça c'est mon côté germanophobe certainement, inculqué par ma grand-mère, Wagner, Bruckner, je trouve qu'il parvient précisément à montrer, chez Bruckner notamment, les failles de cet homme complètement obsessionnel qui, jusqu'au dernier souffle, a réécrit ses symphonies.
Alors que Mendelssohn, peut-être que là, pour une germanophobe, il a peut-être un peu plus sa place, on va en parler dans quelques instants.
Thank you.
l'Allegro Vivacissimo de la symphonie numéro 3 en la mineur opus 56 de Félix Mendelssohn, la symphonie dite écossaise, interprétée par l'Orchestre symphonique de Londres sous la direction de Claudio Abbado, qui nous renvoie à notre conversation autour de vos auteurs, des auteurs que vous connaissez depuis longue date, Sabine Vespizer, et qui s'intéressent à la musique. Alors là, c'est un peu plus loin concernant Mendelssohn, puisque c'était plutôt la dynastie Mendelssohn.
Absolument,
avec Diane Meur.
La carte des Mendelssohn de Diane Meur, dont d'ailleurs la structure accompagne aussi, enfin fait écho plus exactement à la complexité de la musique que nous venons d'entendre. Et ce livre est parti d'un projet assez simple qui était d'examiner le chaînon manquant entre Moses Mendelssohn, le philosophe des Lumières, et Félix. Et quand Diane s'est aperçue que ce père Abraham avait déjà été l'objet d'une monographie assez conséquente, comme c'est un esprit curieux et encyclopédique, elle s'est dit que c'était pas du tout intéressant d'écrire un roman. Et donc elle a poursuivi la recherche généalogique. Et elle a poursuivi la recherche généalogique à telle enseigne qu'elle s'est retrouvée physiquement avec un arbre qu'elle avait commencé à dessiner, ou plus exactement à réaliser sur sa table de salle à manger, un arbre devenant carte, qui mangeait la table de salle à manger et toute la pièce avec des bristoles collées. Donc là, on est vraiment dans le processus physique absolu de l'écriture. Et une fois qu'elle s'est avisée qu'il lui était impossible d'écrire l'histoire des 865 descendants de la famille Mendelssohn, qui tous évidemment venant de la même racine de Moses Mendelssohn, étaient dispersés à travers le monde pour devenir l'un banquier aux États-Unis, la deuxième bonne sœur à Jérusalem, et le troisième éventuellement musicien ailleurs, elle s'est dit qu'elle allait faire le roman de son enquête. Et ce qui est absolument formidable dans cette enquête-là, c'est que ce dont elle s'est rendue compte, évidemment, c'est de quelque chose de l'ordre de la philosophie de Moses Mendelssohn en acte. C'est-à-dire que les racines, c'est bien gentil, mais la liberté de l'individu, ça existe. Et qu'on a beau appartenir à une famille, on est un être libre et autonome et on n'est pas forcément déterminé par l'endroit d'où on vient.
Néanmoins, c'est toujours plus ou moins là, à vous écouter, notamment par les musiques qu'on écoute, le milieu germanique flotte toujours.
Il flotte,
autour
absolument.
De nous. Et ce qu'il y a d'étonnant aussi, c'est que vos auteurs s'intéressent au destin de musiciens, mais aussi simplement à la musique. Je pense à Léonore de Recondo qui est venue ici dans cette émission et qui est musicienne et que je propose d'écouter tout de suite sur France Musique.
Tardano a darmi morte, e disperato e forte, ucciderò da me, ucciderò da me, e disperato, disperato e forte, ucciderò da me. Se tanti i miei dolori, tardano a darmi morte, e disperato e forte, ucciderò da me, e disperato, disperato e forte,
Forte, ucciderò da me, e disperato, disperato e forte, ucciderò da me.
Tanti miei dolori, extrait de Barbara Ninfa Ingrata de Giovanni Bononcini, interprété par l'Iriade, dont Léonore de Recondo est violon, avec Cyril Ovitti. Alors, on entend votre autrice, on dit comme ça, qui est aussi interprète, qui a beaucoup de cordes à son violon,
faudrait le dire,
et qui fait partie des auteurs que vous suivez, qui vous suivent. Enfin, il y a cette fidélité aussi qui est propre à votre maison.
Et qui est une fidélité que je souhaite, évidemment, et qui me paraît la condition sine qua non pour parvenir à installer une œuvre dans le temps. C'est fragile, une œuvre littéraire. Et puis, un auteur n'est pas tenu à la perfection toujours. Donc, un éditeur se doit d'accompagner des textes de plus faible intensité et... voilà, de les défendre quand même, parce qu'à un moment donné, chez un écrivain, il y a la nécessité d'écrire ce texte-là, et puis de savoir rebondir dans le temps et dans la durée. Donc oui, Léonore, c'est une belle aventure. J'ai commencé à la publier en 2012, et il y a déjà 5 livres d'elle au catalogue, et avec cette particularité, évidemment, que elle maîtrise la langue musicale, ce qu'on... c'est banal de le dire, mais c'est vrai que dans la maîtrise absolue de sa phrase, il y a quelque chose de la musicienne. Et moi, je suis toujours bouleversée quand je la vois jouer. C'est-à-dire quand je la vois jouer du violon, je suis toujours extrêmement émue parce que je me rends compte que de ce corps sort quelque chose qui est de l'ordre de la beauté, de la création. Et là, je le vois physiquement. Enfin, je ne la vois pas écrire. Enfin, je ne vois pas les auteurs que je publie à leur table à écrire. Et les verrai-je, ce serait peu spectaculaire, puisque ce qui est important, c'est l'harmonie du texte achevé. Mais en effet, ce double talent, enfin, cette manière double de rechercher la beauté est extrêmement marquante.
Et est-ce qu'il y a une cohérence entre l'interprétation et l'écriture chez, par exemple, Léonore de Recondo? Est-ce que presque vous l'entendez écrire, du coup?
Oui, il y a évidemment une cohérence. Moi, il me semble que la cohérence est le maître mot d'une œuvre. Et ce qui me... Je dis souvent, d'ailleurs, je ne le dis pas à des auteurs dont je refuse les textes, ce serait extrêmement discourtois de ma part, mais il m'arrive de dire à un écrivain que je publie, tu vois, là, ça sonne faux. C'est-à-dire que quand l'intention narrative est trop lourde et qu'elle dépasse finalement le simple agencement des mots.
Thank you.
Alexandra Schiff interprète l'Andante du concerto pour piano numéro 16 en ré majeur de Mozart avec la Camerata Academica du Mozarteum de Salzbourg sous la direction de Sandor Weg.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Sabine Vespizer, Mozart est votre compositeur de chevet et j'avais envie de poursuivre la métaphore de l'écriture. Est-ce que vous rêvez d'un, et peut-être l'avez-vous rencontré, d'un auteur qui écrive comme Mozart, avec, vous en parliez très bien pendant qu'on l'écoutait, avec cette capacité d'être à la fois délicat, profond, et quoi d'autre encore?
Bien sûr, j'en rêve, qui ne rêve pas de publier une œuvre qui soit à la hauteur de ce génie absolu qui était Mozart. En tout cas, il y a quelque chose aussi d'extrêmement joyeux dans cette musique, parce qu'il n'y a absolument jamais de possibilité d'une page blanche. Si on rebascule sur le registre de l'écriture, c'est-à-dire que on a la sensation que toujours il se rattrapera avec une note délicate, il retombera sur une phrase nouvelle et qu'il nous fera nous promener sur un chemin de campagne, arriver dans une clairière. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la créativité absolue, sans jamais que ce soit du bavardage, ce qui est aussi ce qu'on traque dans la lecture, bien entendu. On parlait de Victor Hugo tout à l'heure, j'ai lu ces 2000 pages pendant l'été, mais à aucun moment je n'ai eu le sentiment du superflu. C'est extraordinaire, ça, quand même.
Monteverdi avec les solistes baroques anglais sous la direction de John Eliot Gardiner interprète cet extrait du Magnificat de Jean-Sébastien Bach en mi bémol majeur, donc la première version du Magnificat avant qu'il ne la transforme en 1730 en ré. C'était parce que c'est l'œuvre que vous écoutez pour vous détendre, Sabine Vespizer.
J'écoute ça de manière assez rituelle le dimanche, je ne sais pas pourquoi.
Après Musique et moi, bien sûr.
Bien entendu, ou avant. Je suis toujours fascinée par la voix humaine. Je crois que l'instrument qui me fascine, qui me touche le plus, c'est la voix. Et là, il y a ce concert de voix dans cette musique, évidemment, d'une extrême beauté. Et voilà, c'est une musique qui me met de bonne humeur, qui me rend guillerette.
Alors justement, par rapport à la voix, Sabine Vespizer, on va se quitter dans quelques instants. J'avais envie de terminer avec vous sur cette voix de Kathleen Ferrier qui, pour vous, serait la référence absolue si vous deviez choisir un interprète parmi vos connaissances musicales.
Parmi d'autres, oui, parce que dans la voix de Yasmine Ferrier, il y a la blessure aussi. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intense fragilité assumée, et puis il y a ce timbre très particulier. Et c'est aussi une interprète que j'ai écoutée très tôt, donc je pense que c'est lié aussi à mes premières émotions musicales, et qu'évidemment j'aurais pu aussi citer Kirite Kanawa, d'autres voix, mais Yasmine Ferrier un timbre pour moi très particulier, une couleur très particulière.
Oui, avec cette gravité qui sonne tellement fort chez elle. Et je voulais terminer avec vous, puisque quand même vous publiez des auteurs. La voix, le sens de la voix dans une œuvre, est-ce que c'est fondamental ? C'est-à-dire, est-ce que aussi on peut ou l'on doit imaginer la voix du narrateur, les voix des personnages ?
C'est fondamental parce que c'est le son et que la littérature, c'est du son précisément. Que ça me paraît consubstantiel même d'une œuvre, la voix.
On va se quitter. Sabine Vespizer, c'est la rentrée littéraire, donc c'est la rentrée pour vous aussi. Combien d'auteurs en cette rentrée ?
3.
Vous pouvez les citer.
Donc, Edna O'Brien, dont nous avons parlé, pour le très beau Girl, traduit, c'est important la traduction, par Pierre-Emmanuel Doza et Aude de Saint-Loup. Louis-Philippe d'Alembert, Mur Méditerranée.
Qui est sur la liste du Goncourt.
Sur la liste du prix Goncourt, répétons-le, ne boudons pas notre plaisir. Et Jean Materne, qui est un auteur que je suis depuis très longtemps, très mélomane, qui parle pas mal de musique aussi dans ses livres, pour un roman dont le théâtre est non loin d'ici, puisque le roman s'appelle Une vue exceptionnelle et se passe dans un immeuble à côté de, qui surplombe l'île aux Cygnes.
Face de la maison de la radio,
absolument.
Merci beaucoup Sabine Vespizer d'être venue partager vos émois musicaux et puis belle rentrée littéraire à vous. On croise les doigts pour votre auteur. Infiniment. On se quitte sur L'amour et la vie d'une femme de Robert Schumann avec Nun hast du mir den ersten Schmerz getan, interprété par John Newark et Kathleen Ferrier.
Nun hast du mir den ersten Schmerz getan. Der aber traf, du schliefst, du harter, unbarmherziger Mann, den Tod erschlaf. Dir verlassene vor sich hin. Die Welt ist leer, ist leer. Gelebt hab ich und
C'était Musique et moi en compagnie de l'éditrice Sabine Vespizer, qui était donc l'invitée ce matin. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de francemusique.fr à la rubrique Musique et moi pour trouver les listes des œuvres diffusées ce matin. Merci à Pierre Monteil qui était à la prise de son, Sophie Pichon à la réalisation, attachée de production Marie Ferdinand. Je vous souhaite un beau dimanche et une belle semaine à l'écoute de France Musique. On se retrouve dimanche prochain, 11h.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.